En fait, je me demande ce que je vais encore vous dire parce que j'ai l'impression que presque tout a été dit déjà dans ce qu'on a vécu dans la louange et dans ce qu'on vient d'entendre. Là, c'est mieux. C'est bon? Ouais, mais là, je ne suis pas en face de mes papiers, alors ça ne va pas. Excusez-moi, hein, j'arrive, hein. Alors en fait, depuis longtemps envie de vous partager quelque chose. C'est un enseignement qu'on a entendu quand on était au Mexique au mois de mars. Et au moment où je l'entendais, je me disais, mais il faut que je dise ça à l'église Josué, quoi, parce que j'ai trouvé ça tellement, tellement chouette et franchement, ça m'a parlé. Et voilà, donc on va parler essentiellement du passage qu'on trouve dans Jean au chapitre 4, qui est ce passage où Jésus rencontre la Samaritaine. On ne va pas le lire parce que tout le monde connaît l'histoire, donc simplement je vais déjà vous situer le contexte. Donc on est à l'époque de Jésus. Déjà, en tant que juif, on n'adressait pas la parole aux Samaritains, d'accord ? Donc déjà là, on voit que Jésus franchit une barrière, qui était une barrière culturelle, puisqu'il ose non seulement s'adresser à une Samaritaine, mais qui plus est, une femme. Vous imaginez ? Un homme qui parle à une Samaritaine, qui est donc une femme, mais en plus, un homme enseignant qui s'adresse à une femme comme celle-là, et pas n'importe quelle Samaritaine, hein. Pas une Samaritaine de la haute, qui a de bonnes relations, etc. Non, non, vraiment une femme qui, je crois qu'on peut le dire, n'a pas vécu forcément une vie exemplaire. Donc on voit cette femme qui est là et puis qui va puiser de l'eau. Alors c'est pas tellement ça qui est surprenant, je suppose que toutes les femmes en Israël allaient puiser de l'eau à cette époque-là. Ce qui est surprenant, c'est l'heure à laquelle elle vient au puits. Elle y vient à la sixième heure du jour, ce qui correspond environ à midi. Alors moi, j'étais jamais en Israël encore, mais même en Alsace, quand il fait très chaud à midi, c'est pas là que j'irai m'échiner à aller puiser des seaux et puis à les transporter en pleine chaleur. Donc déjà là, il y a une chose qui est surprenante, mais l'explication, on la voit très vite, hein. Elle y va à midi. Pourquoi ? Parce qu'elle est sûre de ne rencontrer personne. C'est vraiment quelqu'un qui, même au niveau de son propre peuple, n'est vraiment pas considérée. Donc je vous rappelle qu'elle a un style de vie très particulier. Elle en est à 5 mariages, plus un sixième. Bref, c'est pas top. Mais à votre avis, elle en est là parce que c'est ce qu'elle a toujours rêvé d'être ? Divorcée 5 fois, vivre à la colle avec un sixième Je ne crois pas qu'étant petite fille ou même jeune fille, elle se soit dit en rêvant « Ah, quand je serai grande, je me marierai 5 fois, puis après je vivrai avec un sixième, et puis j'en aurai marre, et puis je changerai. » Non, c'était certainement une personne, une petite fille, une jeune fille qui rêvait au prince charmant comme toutes les petites filles et comme toutes les jeunes filles. Le prince charmant, quoi, qui vient sur son beau cheval blanc, ou alors peut-être l'histoire, vous savez, de la grenouille ou du crapaud, que la princesse embrasse et qui se transforme en beau prince. Elle, quelque part, elle avait embrassé un beau prince, et un jour, elle a eu l'impression d'être à côté d'un crapaud. Donc elle s'est dit, voilà, peut-être je me suis trompée. Il n'arrive pas à me combler. Donc je vais changer, je vais essayer avec quelqu'un d'autre, peut-être que là, ça va marcher, peut-être qu'il restera prince charmant pendant toute notre vie, quoi. Et donc elle essaye, et non, ça ne marche pas non plus. Alors elle essaye encore, et puis ça se répète, et puis en fait, plus ça va, moins le temps où vraiment elle est heureuse et comblée se raccourcit. parce qu'en fait, elle cherche son bonheur là où il n'est pas. Elle le cherche auprès de quelqu'un qui ne peut pas la combler entièrement. Elle met toutes ses attentes dans un mariage ou dans un homme qui n'a pas les moyens de la combler entièrement. Et pour finir, elle est tellement désabusée que quand arrive un sixième gars, elle lui dit « Bon, écoute, je veux bien qu'on vive ensemble comme ça, mais pas de mariage, ça nous évitera les frais du divorce, ça nous évitera plein de tracas, on n'a qu'à vivre ensemble, et puis d'abord c'est plus moderne, se marier c'est vieux jeu, enfin bref, voilà quoi. » Et donc elle vit actuellement avec ce sixième homme. Donc pourquoi est-ce qu'elle a perdu toutes ses illusions? Comme je l'ai dit, elle cherchait le bonheur, elle cherchait la plénitude là où elle ne pouvait pas la trouver. Et en fait, vous savez, c'est comme l'histoire de ces deux gars. Il y a un copain qui voit son copain, c'est la nuit, il fait nuit, puis il est sous un réverbère et il cherche. Et alors il dit, tiens, je vais voir ce qui se passe, peut-être il a perdu quelque chose, peut-être que je peux l'aider. Puis il a dit, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais là, à regarder par terre comme ça? Il lui dit, ben, j'ai perdu un billet de 500 francs, oh, oui, je suis encore au franc. Et puis je cherche et j'arrive pas à le retrouver, quoi. Il dit, ah bon, mais tu l'as perdu là? Ben non, je l'ai perdu là-bas, à 500 mètres. Il dit, mais alors, pourquoi tu cherches ici? Pourquoi tu cherches pas là-bas? Il dit, ben tu vois pas qu'il fait plus clair ici? Et voilà, d'une certaine façon, l'humanité en général, c'est un petit peu ce qu'elle fait. Elle cherche à se rassasier, elle cherche à trouver son bonheur là où les pleins phares sont dessus. Hein. Je ne sais pas moi, une bonne situation au niveau du travail, un avancement... Si j'ai le dernier, je sais pas les jeunes là, si j'ai le dernier iPod, là je serais vraiment heureux. Ou si mon pasteur s'occupe bien de moi, s'il me téléphone tous les jours, là je vais aller bien. Voilà quoi. On s'en rend bien compte aujourd'hui et j'en discutais pas plus tard que hier ou avant-hier avec mon médecin. Et lui, il est bien placé pour voir qu'effectivement, les gens, jeunes et moins jeunes, n'ont plus d'espérance, quoi. Ils ont tellement cherché à se remplir de choses vaines et futiles que là, ils se disent, ben, à quoi ça sert, quoi? Et pourquoi continuer à vivre si tu n'as plus d'espérance? Voilà, tout ça parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. Il y a ce verset dans Jérémie 2, 13 qui dit « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, non seulement des citernes, mais des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Et c'est exactement ce qui se passe. Chaque fois qu'on essaye, comme la Samaritaine, de chercher le bonheur là où il n'est pas, eh ben, on se sent bien pendant un temps, on est bien, on a ce qu'il nous faut, mais la citerne finit par se vider et on se retrouve au même point, quoi. C'est-à-dire vide, sec. Et en fait, la Samaritaine, elle allait puiser son eau pour la boire, pour ses besoins au quotidien dans le naturel, mais elle faisait la même chose au niveau de ses besoins spirituels. Au lieu de chercher la plénitude auprès de Dieu, elle l'a cherchée auprès de ses différents maris, de ses différents compagnons. Alors, par rapport au fait que Jésus, justement, soit près d'un puits, ben, il y a d'autres passages dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, où on voit des hommes près d'un puits et qui demandent à boire à des femmes. Alors, je vais vous en citer trois. Il y a d'abord le serviteur d'Abraham. Vous vous souvenez de l'histoire, hein, c'est dans Genèse 24. Donc il cherchait une épouse pour Isaac, d'accord? Il revenait dans la région d'où Abraham était originaire, et puis ce n'était pas forcément facile, donc il a demandé un coup de main à Dieu. Il lui a dit, ben voilà, je vais auprès du puits, la femme à qui je demande à boire et qui me dit « Je te donnerai à boire et en plus, je donnerai à boire à tes chameaux », voilà, ce sera elle, la femme pour Isaac. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième dont je voudrais vous parler, c'est Jacob. Alors, vous vous souvenez, Jacob, il est en train de courir aussi vite qu'il peut devant son frère Ésaü qui est en train de le poursuivre. Et lui aussi, il arrive à un puits. Et là, il y a une grosse pierre qui bouche l'entrée. Alors, il dit au berger qui était là avec lui, on va pousser la pierre, ça va déboucher la source et on pourra puiser. Puis là, les bergers disent, mais ça va pas, non, t'as vu un peu la taille du truc, il faudrait qu'on soit bien plus nombreux, on n'y arrivera jamais. Et c'est là qu'arrive Rachel. Alors vous voyez le truc, Jacob il voit Rachel, et puis la mâchoire jusque-là. Et puis, comme souvent, quand les gars, n'est-ce pas, voient l'être de leur rêve, tout à coup ils ont des forces surhumaines, et puis Jacob il y va, il roule la pierre tout seul. C'est ça pour impressionner, n'est-ce pas, la demoiselle Rachel. Et puis, s'il vous plaît, mademoiselle, à vous, servez-vous. Enfin, bref. Le troisième, donc là, à nouveau, c'est au puits qu'il rencontre sa future épouse. D'accord ? Donc, c'est le deuxième. Ensuite, on voit Moïse. Moïse, lui, il est en fuite. Il vient de s'enfuir du pays d'Égypte, il arrive aussi à un puits, et il voit là des bergères, à nouveau, tiens, c'est bizarre, en train d'abreuver leurs troupeaux. Et puis c'est là qu'arrivent les bergers, d'autres bergers. Et alors, ils n'ont pas été élevés au palais royal comme Moïse, ça fait trop longtemps certainement qu'ils sont juste en compagnie de leurs troupeaux, donc ils ont franchement perdu toutes les règles du savoir-vivre, et ils bousculent les bergères pour prendre la place. Et à nouveau, Moïse, lui qui a été élevé au palais, qui a des manières de prince, etc., il va bien les remballer, et à nouveau, demander aux... à ces demoiselles de se servir. Et l'une d'elles, effectivement, deviendra son épouse. Donc vous voyez que ces trois personnes, ces trois figures de l'Ancien Testament ont trouvé une épouse auprès d'un puits. D'accord ? Et que ça soit notre mariage, que ça soit une relation d'amitié, elle devrait toujours, en fait, toute relation qu'on a devrait trouver sa source près de ce puits qu'est Dieu. Et c'est là qu'on ne manquera jamais d'eau. Donc, pour en revenir à Jésus avec la Samaritaine, on voit en fait que ce que Jésus est en train de faire en réalité lorsqu'il demande à boire à la Samaritaine, c'est l'inviter quelque part. Il lui dit, tu as eu 5 époux, tu vis avec un homme, mais tu es toujours sèche à l'intérieur, tu n'es pas comblée. Mais moi, je veux être ce 7e époux. Vous savez, 6, donc elle en était à son 6e, 6, c'est le chiffre de l'humanité. Et 7, on le sait, c'est le chiffre de la perfection divine. Et en quelque sorte, Jésus est en train de dire là à la Samaritaine, mais je veux être ton 7e époux. Cet époux parfait qui saura te combler de façon définitive, de façon éternelle. Je suis une source qui ne tarit pas. Je suis celui qui pourra satisfaire tous tes besoins. Souvenez-vous que Jésus n'est pas venu sur terre simplement pour sauver l'humanité. C'est vrai que souvent ce passage, on le voit dans le sens où Jésus a apporté le salut à la Samaritaine. Bien sûr, c'est vrai, mais ça va plus loin que ça. Il est venu sur terre pour se chercher une épouse. Et quelque part, la Samaritaine représente cette épouse que Jésus vient chercher. Dans Éphésiens, au chapitre 5, Paul nous parle du mariage. Au verset 31, il nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Hein, Paul ne parle pas là juste du mariage dans le naturel, mais il parle de Christ et de l'Église, ce grand mystère de Christ et de l'Église. Alors, quand, ce mystère est mentionné déjà une première fois dans Genèse. On voit Adam dans le jardin. Alors Dieu le regarde et puis il se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Peut-être il était en train d'essayer de se préparer un petit ragoût ou je sais pas quoi, ou il était en train d'essayer de se faire un truc à manger, il avait faim, et puis Dieu il voit ça et se dit, oh là là, on va pas le laisser tout seul. Hein. Et effectivement, si on regarde, donc Dieu vient vers Adam, et Adam lui dit, j'étais en train de donner un nom à tous ces animaux. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le lion, il a sa lionne, l'éléphant, il a son éléphante, le cerf, il a sa biche, etc. Le renard, il a sa renarde. Ils ont tous quelqu'un de même nature et ils se complètent. Ils sont tous deux. Alors moi, j'ai cherché, mais je me suis dit que la girafe, elle est un peu trop grande, quoi. L'hippopotame, peut-être elle est un peu trop... Hein ? La poule, elle n'arrête pas de caqueter, donc c'est trop bavard pour moi. Et Adam ne trouve personne qui ait la même nature que lui. Pour avoir une relation vraiment avec quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui a la même nature. Si notre meilleur ami c'est notre chien, on a un problème. Hein. Soit il faut aller voir l'équipe Sozo, là, soit il faut aller consulter un psy. Mais si notre meilleur ami, notre confident, c'est un chien ou un chat ou que sais-je, on est mal barré. Et donc, que fait Dieu ? Il plonge Adam dans un profond sommeil. Il lui ouvre le côté et il crée Ève. Et en fait, là, on peut vraiment faire un parallèle. Quand Adam voit Ève, il dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair ». Elle a sa nature, elle est complètement identique, quoi, la même nature, le même ADN, on pourrait dire. Et là, on peut voir ce parallèle entre Adam et Jésus. Souvent, dans la Bible, quand on parle de sommeil, ça peut être assimilé à une mort. Et de la même façon qu'Adam, Dieu l'a endormi d'un profond sommeil, bien de cette même façon, Jésus est mort. Pendant le sommeil d'Adam, Dieu lui a ouvert le côté de Jésus a été percé. Du sang et de l'eau sont sortis du côté de Jésus. Et en fait, regardez dans le naturel, lors de quel événement est-ce qu'on a à la fois du sang et de l'eau ? Lors d'une naissance. Lors d'une naissance, il y a ce mélange de sang et d'eau. Et donc, en fait, quand Jésus est mort, son côté a été percé, que cette eau et ce sang sont sortis, c'était quelque part comme l'accouchement de celle qui allait pouvoir avoir la même nature que lui. C'était vraiment cette naissance, il a quelque part accouché de son épouse. Le même ADN que lui, la même nature que lui. Quand il est dit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Là aussi, il s'agit en fait de la première prophétie qui parle de Jésus. C'est Jésus qui a quitté le Père au ciel, qui a quitté sa position parce qu'il voulait s'attacher à son épouse, devenir une seule chair avec elle. Et voilà, c'est exactement ce genre de relation que Dieu veut avoir avec nous, veut avoir avec son Église. Si on cherche ailleurs, ben on va chercher seulement dans des citernes percées, des citernes qui pourront jamais retenir cette eau, cette vie. Si vous regardez dans Jean 7, on est à la fête des tabernacles et il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est donc cette source d'eau-là qui doit être vraiment la source de notre vie spirituelle. Souvent, on attend, que ce soit dans la louange, que ce soit dans notre quotidien, souvent on attend que la pluie vienne d'en haut. Mais ce n'est pas tout à fait juste, parce que les sources, elles sont en nous. Et ce sont les profondeurs des sources qui sont en nous, de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui, quand ils vont être libérés, vont appeler une réponse du ciel qui va retomber alors sous forme de pluie. Parce que, vous savez, la pluie, si on attend toujours que la pluie vienne d'en haut, quand on traverse des déserts, ce qui, je crois, est le cas de plusieurs d'entre nous, et voilà, j'en fais partie, si on attend que la pluie tombe du ciel, on risque de mourir de soif parfois. Mais si je sais que l'Esprit de Dieu est en moi et que je commence à agir dans la foi, alors je peux avoir de l'eau même au milieu du désert. Et du coup, la Samaritaine continue en posant la question: vous savez, mais nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Et Jésus lui dit: non, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. En d'autres termes, peu importe le lieu, ce n'est pas un temple de pierre qui est important. Le temple, et ça on le sait tous, le temple, c'est nous, c'est nous-mêmes. Pardon. Donc, adorer en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire simplement adorer avec cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Cette nouvelle naissance, quelque part, où on est né quand le côté de Jésus a été percé, quand l'eau et le sang ont coulé. C'est là qu'on est né de nouveau. C'est là que son épouse est née. Et donc, adorer en esprit, c'est, à la limite, on n'a même rien à faire. C'est simplement laisser la place à l'Esprit-Saint en nous. Et c'est lui qui adore. Nous, on ne sait pas de toute façon adorer. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui adore, qui crie « Abba, Père ». Et quelque part, au départ, Jésus demande de l'eau du puits à la Samaritaine, mais dans une deuxième étape, il lui demande cette eau de l'adoration en vérité, de cette véritable adoration. En fait, c'est ça que Dieu recherche quand il voit son épouse, c'est cette adoration-là qu'il attend. Donc ceux qui adorent par l'Esprit de Dieu, mais qui adorent aussi dans la vérité, c'est-à-dire cette vraie identité. Hein, pas l'identité de... On a entendu tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'était Franck, qui disait « plus le vieil homme », mais vraiment cette identité de Christ en nous. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et c'est pour ça aussi, et on l'a vu aussi ce matin, que quand on commence à louer, quand on commence à adorer, ben, y a une réponse du ciel. Il y a des prophéties qui viennent, il y a des paroles d'encouragement qui viennent, il y a des... Ouais, Dieu répond, quoi. Si je dis à Patrick « je t'aime », forcément, ça va susciter une réponse chez lui. Et de cette même façon, quand on exprime toute notre louange, notre adoration à Dieu, ça va susciter une réponse du ciel. Donc on parlait de cette pluie, et donc simplement pour vous dire, dans Genèse, quand il est question du déluge, il est dit, au Genèse 7, verset 11, « L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, il n'est pas dit d'abord « il a plu », il est dit « toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et seulement après, les écluses des cieux s'ouvrirent ». Donc c'est d'abord les fontaines du bas, des abîmes, qui se sont rompues, d'accord ? Et c'est seulement après que les écluses des cieux se sont ouvertes. Et c'est vrai, souvent on est là, Seigneur fait pleuvoir, mais il faut que les sources qui sont en nous, qui sont en chacun de nous, sans exception, il faut que ces sources-là jaillissent pour appeler la réponse du ciel. Vous savez, les régions où il pleut le plus, c'est là où il y a le plus de sources. Les profondeurs d'en bas appellent les profondeurs du ciel. L'eau d'en bas, si on la libère, appelle l'eau d'en haut. Et c'est là que j'en arrive à Ézéchiel 47. Vous savez, quand il est dit, il me fit retourner à l'entrée de la maison, voici des eaux sortaient de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient, et les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Donc là, Ézéchiel, en fait, a une vision, il voit le temple. Et le temple, on l'a dit tout à l'heure, c'est qui ? C'est nous. Il est dit là que les eaux sortaient de sous le seuil, donc de la porte. Notre porte, c'est quoi ? La bouche. Il est dit souvent que la bouche est comme une porte. C'est donc de cette porte-là que doivent sortir les fleuves. Et il me dit, ces eaux, au verset 8, sortent vers la contrée orientale et elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Écoutez bien, lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines. Vous imaginez ? C'est lorsque les eaux qui sont en nous, pas seulement la pluie, mais lorsque les eaux qui sont en nous, ces sources, seront rompues, qu'elles jailliront de notre bouche, que les eaux de la mer seront rendues saines. Souvent, la mer représente en fait les nations, d'accord ? Alors c'est vrai que, j'en ai oublié un, il y a le verset 9 qui dit « Il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la rivière vivra ». Et là, ce n'est pas juste vivre la vie ici sur terre, c'est vraiment cette vie éternelle. Partout où on permettra à ces sources de jaillir, de sortir de nous, d'aller toucher les nations, eh bien, partout où ce fleuve coulera, il y aura la vie. Mais vous voyez, Ézéchiel, pour voir toutes ces choses, il a dû entrer dans le fleuve, il a dû entrer dans la rivière. Il n'est pas resté juste au bord, à jouer comme ça un petit peu avec l'eau. Il a vraiment dû s'abandonner complètement. Et parfois, on est tellement occupé à regarder aux autres plutôt qu'à regarder à Dieu et à lâcher prise quelque part pour vraiment lui exprimer notre adoration. On reste au bord et puis lui avec ses drapeaux il éclabousse trop quoi, hein, il pourrait se calmer un peu quoi, hein, et puis lui avec sa guitare franchement Et puis la batterie, oh là là, la batterie, c'est trop fort, c'est trop violent, c'est trop ceci, c'est trop cela. Ou inversement, hein. Mais pourquoi ils restent tout le temps assis sur leur chaise? Ils sont trop mous, ils sont trop ci, ils sont trop ça. On peut l'avoir dans les deux sens, quoi. Hein. Mais simplement, nous regardons à Dieu. Et n'hésitons pas à entrer. On ne vous demande pas de plonger d'un coup. Hein. Ézéchiel aussi, il y va progressivement, d'abord aux chevilles, ensuite aux genoux, ensuite, etc. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment emmené par cette vie quoi, qui jaillit. Donc, ne restons pas au bord à critiquer ce que font d'autres. Le pasteur, il m'a appelé qu'une fois ce mois. Je ne me sens pas assez chouchoutée, on ne me caresse pas assez dans le sens du poil, où j'ai trop à faire, où j'ai... Non, entrons dans le fleuve. Et c'est là, en fait, que les choses vont changer. C'est là que la vie va pouvoir couler, non seulement en nous, mais il faut qu'on laisse vraiment ce courant d'eau. Vous savez, la mer morte, en fait, la mer morte, pourquoi est-ce qu'elle est devenue stérile? Parce qu'elle est fermée. C'est-à-dire que l'eau rentre, mais quelque part, elle veut tout garder. Elle veut tout garder, et du coup, ben, elle est devenue stérile. Au verset 11 d'Ézéchiel, il dit « Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. » Alors que ben, la mer morte, c'est le même fleuve qui alimente aussi le lac de Tibériade. Seulement lui, il ne retient pas l'eau, il laisse couler. L'eau coule au travers de lui. Et je crois vraiment que ça, c'est un principe essentiel aussi. On demande à Dieu d'être rempli, mais ce n'est pas pour garder ces choses, c'est pour qu'elles puissent couler sur le peuple de Dieu qui est dans cette ville, qui est dans cette nation, qui est dans les nations. Et c'est là qu'on arrivera en fait au verset 12, et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, leur fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire. Et leur fruit sera pour nourrir les nations, et leur feuille pour guérir. Voilà, c'est ce que Dieu promet. Si on permet aux écluses qui sont en nous de s'ouvrir, de laisser couler, alors Dieu va répondre et ça va être en fait un courant non-stop, le principe des vases communicants. Si je veux plus, alors il faut que je lâche les sources qui sont en moi. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra effectivement, c'est pas en faisant des... Bien sûr, il faut des stratégies d'évangélisation, mais c'est quand on vivra pleinement cette adoration en esprit, en vérité, cet équilibre entre la justice de Dieu, notre adoration et la réponse du ciel. C'est ça qui va toucher les nations, c'est ça qui va toucher notre ville, c'est ça qui va toucher nos familles et jusque dans les nations. Non, je ne sais pas si tu veux prendre un temps de prière ou...
Isabelle, super. Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Amen. Ça vient pas de nous. On n'y est